mercredi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Bonjour, bienvenue dans Dessus de table, émission qui met les plaisirs dans le plat, mais alors sans notre globe-trotteur Philippe Robichon aujourd'hui, qui parcourt en ce moment l'Indonésie. J'espère qu'il va nous ramener plein d'épices et de recettes dans son panier. En tous les cas, on le retrouve bientôt avec plaisir. Mais aujourd'hui, dans Dessus de table, on vous dit tout sur le veau. Alors les divers morceaux, les abats, comment le choisir, comment le préparer et comment le cuire et le cuisiner, on espère, à la perfection. Alors pour en parler avec nous en plateau et en direct, nos deux experts de la semaine, Leïla El-Omari, tout d'abord, vous êtes bouchère et restauratrice à Brétigny-sur-Orge. Bonjour Leïla.
Bonjour à vous Manuel.
Et puis Thibaut Spivak qui est avec nous également, vous êtes chef de cuisine et propriétaire de votre restaurant depuis quelques mois maintenant, presque un an, bientôt un an.
Six mois,
oui, voilà, c'est tout neuf. Donc votre restaurant Anona dans le 17e arrondissement de Paris. Bonjour Thibaut Spivak.
Bonjour Manuel.
Alors le veau, alors on en parle depuis la nuit depuis la nuit des temps, hein. Dans la Bible et dans le Coran déjà on parle du fameux veau d'or. Jean de La Fontaine a également accordé au veau une place de choix dans ses célèbres fables. Et puis l'écrivain et auteur de théâtre Bertolt Brecht aimait répéter « L'homme est bon, mais le veau est meilleur ». Alors le veau, tout le monde en parle, mais si la France reste le premier consommateur mondial, c'est une viande qui est de moins en moins consommée, alors que c'est pourtant une des viandes les plus fines et les plus saines. Alors qui veut déjà donner un élément de réponse? Pourquoi est-ce qu'en France, on mange de moins en moins de veau?
Alors effectivement, au niveau de la boucherie, on l'a remarqué, le veau a tendance à chuter au niveau des ventes. Donc je pense dans un premier temps que c'est peut-être le prix qui doit être contraignant, mais et aussi du fait qu'il y a de moins en moins d'artisans bouchers.
Surtout dans les centres-villes, on va dire.
Dans les centres-villes, il y a moins d'artisans bouchers, de moins en moins de veaux dans les étals, dans les supermarchés.
Oui, alors effectivement, c'est vrai que quand on va chez un boucher, il y a du veau, il y a plein de morceaux différents, mais quand on va dans un supermarché, effectivement, il y a des rayons boucherie, pas toujours avec des vrais bouchers d'ailleurs, hein, souvent avec de la viande sous plastique, hein, pas toujours de très bonnes origines. Et c'est vrai que la partie accordée au veau dans ces rayons, elle est minime. Est-ce que vous, Thibaut, dans votre restaurant Anona, est-ce que vous constatez aussi un petit peu un désamour du veau? Est-ce que les gens sont plus bœuf, plus agneau?
Je pense non, la clientèle, elle apprécie vraiment le veau. Quand on en met à la carte, on a beaucoup de ventes. Bah, par contre, c'est vrai que les restaurateurs en achètent de moins en moins pour plusieurs raisons, comme Léla l'a dit, au niveau de tarif,
prix,
déjà
oui.
Il y a un coût, et également la part au véganisme qui se développe beaucoup, beaucoup, en tout cas sur la capitale.
Oui, alors déjà que c'est pas bien de manger des bœufs, alors les pauvres petits veaux.
C'est ça, on laisse les bébés tranquilles.
Oui, c'est ça, d'accord. Bon, encore le véganisme. Bon, c'est vrai qu'on parle de temps en temps du véganisme ici, mais bon. Allez, chacun son alimentation et chacun ses choix. Mais c'est vrai que c'est quand même une viande qui est très bonne, puis qui est saine aussi pour la santé. Le veau, c'est pas très gras.
Tout à fait, c'est maigre.
Ouais, je crois qu'il y a alors le veau, il est riche en protéines. Il y a 20% de protéines dans la viande de veau, avec beaucoup d'acides aminés, etc. Donc c'est très bon pour les os, pour la masse musculaire. Mais c'est aussi pauvre en matière grasse. Je crois qu'en moyenne, la viande de veau, c'est 4% de lipides à peu près. Alors est-ce que c'est souvent les viandes qui sont maigres sont sèches? Est-ce que le veau est sec?
Non, quelque chose de très très moelleux. Au contraire, on a une justement, il y a un petit gras, mais qui est fin, qui est délicat, qui fond sur la cuisson, qui va du coup nourrir naturellement l'animal sans avoir besoin de trop d'ajouts de matière grasse, vraiment à beaucoup de viande blanche équivalente.
D'accord. Alors, les gens qui achètent du veau chez vous à la boucherie, chez Boucherie & Co, est-ce que les gens viennent naturellement sur le veau ou est-ce qu'il faut leur forcer un petit peu la main de temps en temps?
Ça arrive. On a des clients qui viennent naturellement dessus, qui ont l'habitude de certaines viandes. Et puis, pour d'autres, ils n'osent pas trop l'acheter parce qu'ils ne savent pas non plus la cuisiner. Donc, ils nous demandent des petits conseils, on les oriente, on leur explique. Et puis après, ils en prennent. Et puis, ils reviennent la fois d'après, ils en prennent naturellement. Je pense aussi qu'ils ne savent pas aussi comment la cuisiner.
Mais c'est ça, justement, si vous nous écoutez et que vous ne savez pas comment cuisiner le veau, on a des spécialistes sur le plateau, donc vous nous appelez 01 53 48 3000 si vous avez des questions à poser. Et puis écoutez bien l'émission aussi, parce que en fin d'émission, on va vous poser des questions. Vous pourrez gagner un déjeuner dans le restaurant de Thibaut Spivak à Anona, où moi j'ai dîné il n'y a pas si longtemps que ça, et où on mange très bien. Et puis, vous pourrez gagner un petit lot de viande de race, je précise, parce que chez vous, chez Boucherie & Co, vous ne faites que des viandes de race.
Hein,
vous ne faites pas de viande de supermarché, entre
du
guillemets.
Tout.
Hein, donc de la vraie viande, de vrais bouchers, d'artisans bouchers. Et d'artisan boucher, je ne sais pas, si on, ça aussi on féminise. Hein.
Oui, ça, ça commence petit à petit.
Voilà, donc écoutez bien l'émission, vous pourrez gagner effectivement un lot de viande de qualité et d'origine chez Leïla Boucherie & Co. Et également un déjeuner pour deux chez Thibaut Spivak, le restaurant Anona. Donc deux adresses de qualité, donc restez bien à l'écoute de l'émission. Alors, on le disait juste avant, donc il est riche en protéines, mais pauvre en matière grasse, donc c'est vrai que ça en fait une viande bonne à consommer, un peu comme le canard d'ailleurs, qui est une viande très bonne au niveau nutritionnel, malgré, comme on pense toujours à la peau du canard, qu'on voit comme un bout de gras, on se dit que le canard est gras, mais c'est pas si gras que ça, le canard, au contraire, c'est une viande plutôt maigre. Bon, il y a des vitamines aussi, B12, B13, il y a du zinc, etc. Donc c'est quand même une viande qui est très bonne pour la santé. Alors, le programme national nutrition santé, qui est établi par le ministère chargé de la santé, recommande 500 grammes de veau par semaine pour un adulte, ce qui correspond à l'équivalent de 3-4 steaks ou escalopes de veau par semaine, alors qu'on n'en consomme que 320 grammes. On estime que 80% des adultes consomment une quantité inférieure. Pour vous, est-ce que c'est vraiment le prix qui est le premier frein alors
effectivement,
à la consommation de veau?
Oui, effectivement, il y a le prix qui est un très très gros frein. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, la plupart des clients ne savent pas comment le cuisiner également.
Ouais, alors justement, ça, déjà je pense qu'il y a une méconnaissance peut-être des morceaux aussi. Thibaut, on fait pas griller un morceau. C'est pas le même morceau qu'on fait griller. C'est pas le même morceau qu'on fait mijoter.
Non, après ça c'est, on trouve la même chose sur le bœuf. De toute façon, on va avoir des parties qui vont être un peu plus grasses, qui vont demander plus de cuisson, toutes les parties ventrales et épaules, jambes, etc. Enfin, qui vont vendre des bonnes viandes à mijoter pour faire des, là en plein hiver pour se réchauffer un beau maringot ou une bonne blanquette bien faite. Ouais. Et après les parties plutôt dorsales qu'on va pouvoir snacker ou faire des carpaccio ou des tartares l'été un peu plus fraîches.
Ouais, on va en parler tout à l'heure, le veau cru, parce que ça, c'est vrai que c'est pas encore dans les mœurs, encore moins dans la communauté et chez nos auditeurs. Donc ça, c'est un point intéressant qu'on va aborder. Le veau cru, comment le cuisiner? Est-ce que c'est bon? Moi, j'ai la réponse. Mais bon, chacun son sale mauvais goût hein, aussi. Et donc ça, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Les gens, quand ils viennent chez vous, Leïla, est-ce qu'ils viennent en vous disant, voilà, je veux faire ça, il faut que je prenne quel morceau, ou ils vont aller vers le moins cher, ou ils vont acheter tout le temps la même chose pour faire des utilisations différentes, et c'est à vous de les recadrer, de les remettre un peu sur la bonne voie, comment ça se passe?
Alors, la plupart de nos clients qui viennent chez nous, ils nous disent, je veux faire tel plat ou tel plat, et puis on va les orienter progressivement. Donc, pour une blanquette, ça va être du collier ou de l'épaule. S'ils nous disent, on va faire un tagine, on va donner du jarret. Enfin, tout dépend. On les oriente progressivement.
Alors moi, la blanquette, moi j'adore ça avec la poitrine, mais bon, ça c'est autre chose, hein. Ça c'est mes petits goûts personnels. Mais c'est vrai que, par exemple, au restaurant, oui, quand on cuisine pas souvent la poitrine, parce que c'est un morceau qui est un peu entre lardé et de gras, mais le gras du veau, c'est pas un gras écœurant comme le gras de bœuf ou le gras d'agneau. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un gras qui nourrit la viande, c'est très fin, ça garde la fermeté, c'est pas trop gélatineuse, que souvent ce qui déplaît aux, enfin, les gens qui aiment pas le gras, souvent, bah, y a le côté psychologique sur le côté diététique, mais il y a aussi la texture. Alors que là sur le veau, c'est vrai que ça attendrit la viande.
Puis le gras, ils font à la cuisson.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, ils font à la cuisson, ils nourrissent la viande, permet d'avoir un truc bien tendre, bien goûteux.
Une poitrine de veau roulée avec une farce de champignons, tout ça, etc. Une fois que c'est cuit, le gras, il y en a plus, quoi.
Non, tout est dans l'eau, mais même sur le coin du fourneau, la poitrine qui reste une demi-après-midi tranquillement pour le soir. On se régale.
Ouais, sur le coin du fourneau, d'ailleurs, j'ai vu vos fourneaux. Il y a votre nom sur vos fourneaux.
Ah oui, tout à fait. Ils ont été dédicacés.
C'est la classe.
Oui, c'est pas mal, c'est pas mal.
Ah, c'est ça, il y a une plaque avec votre nom.
Oui, c'est une. Bah, en fait, j'ai fait faire une cuisine.
C'est l'apanage des grands chefs.
C'était un cuisiniste français, donc Inodis, qui m'a fait mon fourneau. Il tenait à nous faire un petit dédicace pour le restaurant. Ouais, c'est gentil, leur part.
Oui, et puis on parlera aussi un petit peu de votre restaurant, parce que ça n'est pas qu'un restaurant gastronomique, mais c'est aussi un. C'est le premier restaurant gastronomique qui est 100% éco-responsable, comme on parle souvent, nous, d'écologie, mm-hmm, effectivement, et de ce genre de choses. On en parlera en fin d'émission. Les clients qui... Alors là, on parlait de la boucherie, mais vous, au restaurant, parce que vous êtes, mm-hmm, plutôt sur une cuisine simple, c'est-à-dire que, en fait, vous faites un peu directement les produits de la boucherie.
C'est ça.
Au restaurant, vous avez un petit restaurant juste à côté qui s'appelle La Broche Grillée. Mm-hmm. Dans ce restaurant, est-ce que les gens demandent d'office des viandes bien cuites, comme c'est souvent le cas, et malheureusement, je dirais.
Alors, c'est vrai que dans notre communauté, on a eu tendance à surcuire la viande. Mais là, petit à petit, en les éduquant, en leur expliquant, les gens commencent à manger saignant. Pas encore tout à fait bleu, mais commence à manger saignant et rosé pour le veau.
Rosé, c'est bien, c'est plutôt pas mal.
Petit à petit.
Oui, parce qu'effectivement, autant il y a plein de cuissons pour le bœuf, on est d'accord que pour le veau, c'est rosé ou bien cuit.
Il n'y a pas de demi-mesure.
Ou cru, si on parle effectivement
Du tartare.
Du tartare ou autre. Et en carpaccio d'ailleurs, ça se fait en carpaccio le veau.
Oh, c'est top en carpaccio, oui. Hein, on utilise le filet. Trancher finement, ça fond dans la bouche. Là, y a
le filet qu'on appelle filet mignon aussi, le mignon de veau, c'est ça, c'est la même partie.
Mm-hmm. Oui, on en fait effectivement.
Et ça, mais c'est la même partie avec laquelle on fait les grenadins ou les médaillons de veau.
C'est ça.
Comme ça. Ok, alors oui, c'est vrai que c'est une viande qu'on connaît assez mal déjà au niveau des morceaux du veau. Les gens, est-ce qu'ils ne viennent pas en demandant une escalope simplement ou un...
Bah déjà, oui, il y a le côté traumatiste du supermarché où là j'ai envie de dire à tout le monde, arrêtez d'y aller, allez plutôt chez Leïla manger de la viande, manger une vraie viande. Parce qu'on est, c'est vrai qu'on connaît toutes les escalopes de veau qui font un demi-centimètre d'épaisseur et une fois cuite, c'est un morceau de caoutchouc. Alors qu'on parlait tout à l'heure que c'est une viande qui est super tendre. Mieux vaut partir sur un beau morceau de viande qu'en pouvoir découper, snacker à soi-même et faire des bonnes choses. Et je pense que ça aussi, ça doit jouer sur le fait que les gens n'achètent plus. On est à escalope de veau ou des vieilles parures pour faire les blanquettes, alors qu'une bonne blanquette avec des bonnes parties, c'est beaucoup plus stratégique.
Ouais, alors pour la blanquette, justement, on parle des plats mijotés. Pour la blanquette, on peut parler de quel morceau ? Il y a le collier, il y a le...
L'épaule.
L'épaule,
ouais, l'épaule, c'est super. Mmh.
Bon, moi, je rajoute ma poitrine.
Ouais, il faut rapporter.
Si je puis m'exprimer ainsi, je rajoute la poitrine parce que j'aime ça. Il y a des morceaux comme ça qui sont pas hyper sexy à voir et qui pourtant sont super bons. Il y a le tendron de veau aussi qui est magnifique le tendron de veau dans un sauté. Il y a un peu de collagène dedans, ça lit la sauce.
Ou en jarret pour faire un osso bucco. C'est pareil, tout est merveilleux. Il y a pas
avec la moelle en plus, là, on a la moelle.
Ça nourrit.
Ouais, alors ça c'est vrai que c'est beaucoup de déclinaisons du veau qu'on connaît pas forcément très bien. D'ailleurs les gens quand ils viennent à la boucherie, ils veulent faire un osso buco, ils demandent quoi ? De l'osso buco ou ils demandent du jarret ?
Alors quand ils viennent, ils me disent je veux de la viande pour faire de l'osso buco. Donc première question, de dinde ou de veau ?
Oui, aussi, parce qu'on peut prendre l'osso buco de dinde.
Ah bah je sais pas, qu'est-ce qui est meilleur ? Je dis mais ça dépend vos goûts. Et puis, souvent, ils prennent du veau.
Enfin, j'ai envie de dire que, d'ailleurs, l'osso buco de dinde, il est un peu apparu parce que le veau était super cher.
Exactement.
Quoi, hein. Je dirais qu'à la base, l'osso buco...
C'était le veau.
Milanaise ou à la romaine, c'est...
Oui.
Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'osso buco, c'est un... je parle sous le contrôle du chef, attention, c'est du jarret de veau qui est mijoté avec une sauce avec un petit peu d'orange dedans, un petit peu de jus d'orange.
Ouais, surtout tomaté, c'est
ouais, un tomate, point. Tomate.
On est en Italie, donc
c'est ça.
Il faut la tomate,
oui, enfin ça, la tomate, comme c'est italien, effectivement, ouais, ça tombait un peu sous le sens. Mais ouais, non, mais c'est très bon, l'osso buco.
Ah oui, tout à fait. Hein.
C'est un super bon plat. Puis en plus, en hiver,
c'est assez simple à produire, en fait. Si on peut en parler après. Mais...
Oui, bah ça, on pourra. Ouais. Bah, vous pourrez, tiens, Thibaut, nous donner une recette rapide d'osso buco à faire en quelques minutes. C'est vrai que c'est pas compliqué à faire, l'osso buco. Et puis c'est surtout très bon, avec des bonnes tagliatelles fraîches.
En fait, on en parle maintenant.
Vous voulez. Attendez, on va faire une pause d'abord. On va faire une petite pause parce que je vois Yanis qui fait les gros yeux parce que la pub arrive. Restez avec nous à l'écoute de Beurre FM. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler du veau avec nos invités. À tout de suite.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robuchon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans Dessus de table sans Philippe Robuchon. Aujourd'hui, hélas, il nous manque Philippe. Mais bon, il prend le soleil, il a raison. Hein, vu le temps qu'il fait ici en ce moment, on ne va pas lui jeter la pierre. On parle du veau aujourd'hui dans Dessus de table avec nos invités Thibaut Spivak, chef et propriétaire du restaurant Anona, et Leïla, qui est bouchère de charme. Parce que bon, vous ressemblez pas vraiment à une bouchère, quoi.
On me le dit souvent.
C'est vrai.
Bon. On dit souvent, j'ai pas la carrure.
Ben oui, hein. Et également restauratrice à Brétigny-sur-Orge. Vous avez les deux côte à côte, hein, la boucherie.
C'est ça. Le restaurant est adjacent à la
directement
boucherie.
Du producteur au consommateur quand on c'est va manger ça. Chez vous.
Du bio du boucher à l'assiette.
D'accord, du bio du boucher à l'assiette. C'est pas mal comme slogan, effectivement. Et donc, on parle du vous. Alors, justement, juste avant la pause, Thibaut, vous nous avez proposé de nous parler un peu de l'osso buco. Alors, allez-y, dites-nous comment on fait un osso buco. Donc, quel morceau on prend, quel ingrédient il faut et comment on fait ça.
Ok, alors l'osso buco, donc on est sur une tranche de jarret. Donc là, il faut aller vraiment chez le boucher pour avoir le jarret tranché. Il faut la moelle épinière, ça va nourrir la sauce. Et la sauce à base de tomates. Donc là, on est sur un plat qui va aller de juin jusqu'à septembre. On va essayer de rester dans la saisonnabilité.
Ou alors, on a des conserves de tomates qu'on a fait soi-même.
Ah, ça, c'est une très bonne idée, ça.
Ouais.
Alors, du coup, on va commencer par avoir une huile bien chaude. La viande, quoi qu'il se passe, on la sort du frigo avant, comme ça, il sera qu'elle soit trop froide et que ça choque la viande.
Oui, c'est important. Pas de choc thermique pour le veau, parce que sinon, après, il est plus sec, c'est ça?
Bah, oui, forcément. Forcément, mais même le fait de mettre quelque chose de froid dans la poêle, on a monté l'huile en température, ça va la refroidir d'un coup et ça va bouillir au lieu de caraméliser.
Ouais.
Et ce qu'on aime bien dans les viandes grillées, ça va être ce côté caramélisé, les protéines qui ressortent, c'est beaucoup plus goûtueux.
Voilà, donc l'osso buco, c'est un braisage, c'est-à-dire qu'on grille d'abord et ensuite, on mijote après.
Exactement. Donc on va snacker la viande dans une huile d'olive bien chaude, la viande qu'on a un petit peu assaisonnée au sel, hein. Donc des deux côtés, donc on a une belle coloration, ok. Ensuite, on va rajouter dessus ce qu'il y a dans le bac à légumes un peu. On va retrouver des oignons, de l'ail, du thym, un petit peu de laurier si on en a.
Garniture aromatique, voilà ce qu'on a. Un peu de céleri branche, un peu.
Voilà.
De...
Tout ce qu'il y aura dans le frigo, je pense qu'il y a rien n'est mauvais. Petite quantité, on aromatise. On laisse tout ça un petit peu tomber. On va rajouter quelques tomates concassées ou la petite boîte
la
de
petite
tomates
conserve,
qu'on s'est mis de côté.
Qu'on s'est mis de côté voilà. Pendant l'été.
Tout ça, on va mettre un couvercle sur le tout et on va laisser confuire. Vraiment tranquillement, à feu doux, le plus doux que vous pouvez.
Faut que ça mijote, faut que ça réduise, quoi.
C'est ça, voilà. Si on met trop fort, ça va brûler, on va être un peu déçu, rien à déjeuner ou à dîner. Et donc, faut, tranquillement, plus on cuit à basse température, on aura un plat mijoté ou un braisé, plus on aura quelque chose de tendre. Si on porte à ébullition, ça va agresser la viande, et on aura quelque chose de tout sec, et on a l'impression que, voilà, que le veau est pas bon, alors qu'on avait quelque chose de formidable à la base. Donc voilà, tranquillement sur le coin du fourneau, on vérifie de temps en temps que ça accroche pas. Une fois que la compotée de tomates est bien faite, le veau sera cuit en même temps. On sort ça et ça se mange le jour même. Le lendemain, ça peut se réchauffer tranquillement. On peut faire manger pour toute une famille, c'est parfait.
Oui, c'est super bon. Et alors, si l'osso buco est milanaise, il y a un petit agrume qui rentre en jeu. Parce qu'il y a plusieurs variantes d'osso buco selon les régions en Italie.
Moi, ouais, c'est comme chez nous en France avec nos potées.
Hein, c'est ça, ouais, par exemple. Ouais.
Mais ouais, on pourra rajouter un petit peu d'orange. Hein, mais moi, ce que j'aime bien, c'est la petite touche de citron, l'acidité. Ça va même permettre de dessaler un peu. Parce qu'on est sur
un petit zeste même, on peut mettre un peu, un peu de jus, un petit bout de zeste.
Le zeste, ce sera top parce qu'on va parfumer sans apporter trop d'acidité. Donc ça va donner un bon parfum à la fraîcheur, l'été. On prend un vrai plaisir là-dessus. Mais pour moi, le petit trait de citron jaune, qui va apporter l'acidité, ça va vraiment rehausser, ça va faire un exhausteur de goût et ça, c'est super à la minute.
Alors, si on a un citron jaune bio, on peut utiliser les zestes tels quels, mais quand on a des citrons traités, comment on fait, est-ce qu'on les prépare avant de les mettre dans la...
Bah, après, si on a un citron...
Pour les nettoyer un peu de leurs pesticides et tout ça...
C'est un petit peu compliqué, là, il faudrait retirer le pesticide. Moi, je conseille quand même de prendre des citrons non traités, même plus que bio, vraiment non traité, c'est l'idéal quand on veut utiliser les zestes.
Ouais.
Après, sinon, il faudrait le faire confire.
Le faire bouillir un peu.
Ouais, c'est
avant,
ça, départ au froid, le faire bouillir une ou deux fois pour...
Ouais, donc c'est quand même assez long, quoi. Puis le citron, là, il est mort trois fois, quoi. Hein.
C'est ça, pauvre bête.
Okay. Bon, bah, une petite recette d'osso buco. On essaiera de mettre tout ça en résumé sur la page du podcast de l'émission. Vous, c'est des choses que vous proposez à vos clients dans la partie restaurant, des plats cuisinés, ou vous êtes plus sur des grillades?
Alors, on est spécialisé dans la grillade, mais tous les jours, à midi, on fait un plat du jour. Donc, ça
D'accord.
peut être paupiette de veau, ça peut être un osso buco, ça peut être un... Si on se lance vers le bœuf, un bœuf bourguignon ou une blanquette de veau, par exemple, tout ouais, dépend.
Une blanquette de veau en hiver, c'est sympa.
Voilà. Donc là, on arrive sur la saison, effectivement. Donc ça va être plus les blanquettes, les bœufs bourguignons, etc.
D'accord. Alors la blanquette, je le rappelle souvent. C'est vrai que souvent on a des questions d'auditeurs, etc. La blanquette, on ne fait pas rissoler la viande hein, avant. La blanquette, c'est une cuisson à blanc, comme on dit. C'est-à-dire, c'est une cuisson dans un bouillon, en fait.
Tout à fait.
On va démarrer de là. Il faut déjà choisir une belle pièce de viande. Pareil, pas trop nerveuse, pas trop grasse. Mmh. Donc, moi, j'ai tendance à choisir l'épaule.
Ouais, collier, épaule, c'est vrai, voilà, c'est vrai que c'est pas mal pour la blanquette.
Ils vont cuire doucement. On va démarrer avec de l'eau froide. On va porter juste pas à forte ébullition, mais un petit peu bouillir pour qui va dégager toutes les mauvaises protéines, toutes les mauvais les mauvais goûts. Il y aura une écume sur,
voilà,
la, sur la viande.
On va écumer, on va donc enlever les petits déchets qui remontent à la surface.
Exactement. Et à ce moment-là, on va rajouter la garniture aromatique. Encore une fois, on favorise des garnitures blanches. Donc éviter les carottes, on va prendre des oignons, de l'ail, du blanc de poireau. On a une sur une blanquette, on a quelque chose de blanc. On va
essayer. Alors vous dites qu'il faut éviter les carottes, parce que c'est vrai que souvent les gens mettent des carottes dans la blanquette, même des champignons.
Ouais, je trouve ça un peu. Enfin après c'est la thématique. On peut, ça donnera du goût. Mais une blanquette.
C'est-à-dire qu'on peut les mettre éventuellement dans la garniture aromatique, mais les enlever quand on fait la sauce, c'est ça éventuellement.
Ou les mettre à la fin justement. Ouais. Moi ce que je. Bah, la carotte, il y a la bêta-carotène qui va colorer, les champignons ça va noircir. Mm-hmm. Moi je fais une blanquette, j'ai envie qu'elle soit blanche, je trouve ça beaucoup plus gourmand quand c'est bien blanc, joli, bien ouais. brillant. Et du coup je vais pas mettre tout ça. Beaucoup de gens en font, moi personnellement je le fais pas, après ça, rien n'est interdit, c'est la cuisine, on fait ce qu'on veut. Mais c'est vrai, donc on va laisser cuire comme ça, encore une fois pareil, pas d'ébullition sur une blanquette, surtout pas. Si on veut une viande qui sera tendre, faut quelque chose qui frémisse à peine.
Des petits bouillons, des petits, petits clapotis, c'est comme à la mer, hein. C'est comme au bord de la Méditerranée, il faut des petits clapotis, pas de.
Et là, faut juste du temps. 3-4 heures de cuisson tranquillement, pareil, feu doux, pas d'ébullition. Là, on est pas besoin de couvercle, on peut l'observer. On assaisonne à la fin, on prend pas de risque parce que ça va réduire.
Ouais.
Donc enlever du sel, c'est un peu difficile.
Non, c'est sûr.
Et donc à la fin, quand la viande est cuite, quand elle fond à la cuillère, on enlève la viande du jus, on fait réduire le jus, on va le crémer, faire réduire un peu pour avoir quelque chose de bien épais, bien nappant. Et là, on met la viande dedans. Et ça, c'est un plat familial l'hiver. C'est vraiment parfait, on peut faire manger pour beaucoup dans une petite casserole.
Alors petite astuce qui m'avait été donnée par le regretté Joël Rebuchon, quand on a trop salé quelque chose, on met une pomme de terre crue dedans. Et la pomme de terre va boire le sel. Je ne sais pas quel est le processus chimique qui se passe, mais quand on met une pomme de terre crue dans un ragoût ou un bouillon ou quelque chose qui est trop salé, ça va absorber le sel. Donc c'est vrai que si on a la main un peu lourde sur le sel, comme ça m'arrive parfois, donc, parce que moi le truc je l'ai utilisé souvent, du coup c'est vrai que ça peut être utile. Il y a des trucs comme ça, des trucs comme ça, des petites astuces et tout en rapport avec les plats mijotés, puisqu'on parlait de plats mijotés. Quand on, par exemple, si ça accroche un peu, on n'a pas assez remué le sauté, le ragoût il est un peu accroché au fond, on peut le transférer dans une autre casserole, il va pas avoir le goût de brûler.
Bah, ça va dépendre à quel point il a accroché,
oui,
évidemment, Manuel.
Oui.
Mais si effectivement si ça commence à accrocher au fond, mieux vaut changer les casseroles tout de suite, parce que on a mis un truc à cuire. C'est souvent à la fin que ça brûle, parce que je pense ça a réduit. Donc évidemment, changer les casseroles rapidement, ne pas laisser quand ça commence à accrocher, ne pas laisser vraiment tout ça prendre.
Mais vous parlez de cuisson longue. Comment on fait justement? Sans avoir à surveiller toutes les 15 secondes, comment on fait pour avoir une cuisson longue sans que ça accroche? Est-ce que il y a des petits, est-ce que je sais pas, est-ce qu'on peut mettre une feuille de papier cuisson au fond de la casserole? Est-ce que c'est idiote? Est-ce que
ça empêchera pas le
jus de patience? Une casserole à fond épais.
Bah, de toute façon, si on est sur une blanquette, on est sur un bouillon. Donc, un bouillon, ça accrochera pas. Si ouais. on fait par exemple un veau maringo ou un ossobuco, où là il va y avoir de l'épaisseur, il va y avoir de la garniture qui va accrocher. Faut remuer de temps en temps. Après, ça reste de la cuisine, c'est de l'amour, hein, donc. Faut rester pas loin.
Oui, parce qu'une blanquette, c'est une sauce qui est un petit peu épaisse, mais c'est lié à la. Enfin, on lit la sauce.
C'est la finition, ouais, tout à fait. Crème réduite, un jaune d'œuf, éventuellement.
Oui, alors ça, c'est la question. C'est le gros débat parmi les amateurs de blanquettes. C'est jaune d'œuf ou pas jaune d'œuf? Ça, moi, je dois avouer que j'aime bien les deux, donc j'ai pas trop d'avis sur la question. Mais bon, il n'y a pas de purisme en la matière.
Pour moi, non, il n'y en a pas. Comme je disais tout à l'heure, la cuisine, c'est chacun la sienne, chacun fait ce qu'il a envie. Il y en a qui n'aiment pas l'œuf par principe, ils auront. Donc ce sera juste une crème réduite qui apporte vraiment du corps, ça fait du bien. Et les gens qui mettent en gel un jaune d'œuf, c'est pour faire moins réduire, donc un peu moins de gras, mais ouais, on apporte.
C'est vrai que si on regarde la recette qui est étudiée par les prétendants au CAP dans les écoles dans les écoles hôtelières, c'est effectivement la version sans jaune d'œuf qui est apprise. Hein,
ouais, que par réduction, ça bien ouais, gras, ça. Bien épais comme on aime.
Ouais, c'est ça.
C'est l'hiver.
Ah, c'est l'hiver, on peut se faire plaisir. Et puis, comme on le disait, le gras du veau, c'est pas du mauvais gras, parce que le gras du veau n'a pas de mauvais cholestérol. Il y a du, le cholestérol à la base est pas forcément bon, mais disons qu'il y a du bon et du mauvais cholestérol. Le gras du veau, c'est pas un gras qui est mauvais pour la santé, qui peut donner des maladies cardiovasculaires, contrairement à des gras d'agneau, de bœuf, etc. Donc, à la limite, est-ce qu'il faut dégraisser l'agneau ou est-ce qu'il faut le cuire avec son gras et puis une fois que c'est dans l'assiette, on enlève les petits bouts qu'on veut pas manger. Qu'est-ce que vous suggérez l'un comme l'autre?
Mon point de vue personnel, moi, je suis pro-gras, je trouve ça bien de... Je préfère garder le gras de l'animal plutôt que rajouter du beurre et de l'huile après.
Oui, aussi.
Parce que finalement, quand souvent on dégraisse, bon, on va être obligé de mettre plein de gras pour pas que ça accroche dans la casserole. L'animal, il est là, son gras, il est là. Mais si on prend une viande de qualité, encore une fois, je reviens dessus, hein, si on a une viande de supermarché qui a été vraiment surnourrie, accélérée, on aura énormément de gras par rapport à la quantité de viande, et ce sera un gras qui sera très, très sali. Alors que si on part sur des viandes de qualité qui ont été en plein air, où du coup le gras il a pénétré dans la viande, je pense que c'est beaucoup plus sain ce genre de choses-là, et donc le gras il reste.
Mais alors la vie de la bouchère, sur le bio, est-ce qu'on dégraisse beaucoup le veau, est-ce qu'on le...
Pas vraiment, il n'y a pas énormément de gras, et puis il y a un petit peu de persillage comme sur le bœuf, donc en fait, comme disait Thibault, le gras est plus à l'intérieur de la viande qu'à l'extérieur.
Oui, c'est ça, 4% de gras en moyenne sur le veau, donc
c'est pas
grand-chose à enlever. Quoi.
On va dégraisser des viandes comme l'agneau ou comme le bœuf, mais c'est vrai qu'au niveau du veau, non. On enlève les tendons, les choses comme ça, mais le gras, on le laisse. Et puis, de toute façon, comme disait Thibaut tout à l'heure, il va fondre à la cuisson et puis ça va être, le plat va être beaucoup plus goûtu.
Okay.
Moi, personnellement, je laisse un peu de gras, toujours.
Est-ce que le veau se mange frais, très frais, le plus frais possible, ou est-ce qu'il se fait maturer un peu est-ce qu'on le mature un petit peu comme du bœuf?
Pour le moment, il ne se fait toujours pas maturer, mais effectivement, quand la bête est abattue, on a l'obligation légale de laisser 24 à 48 heures dans la chambre froide. Donc pour sécher un petit peu, et on peut le consommer tout de suite après, mais des vitrines à maturation où il y a du veau, j'ai vu de l'agneau, j'ai vu du bœuf, pas encore du veau dans notre communauté, j'ai pas encore du veau.
D'accord.
Pas pour le moment.
Bon, alors écoutez bien et continuez à bien écouter l'émission, puisque comme je vous l'ai dit en dernière partie d'émission, on vous posera deux questions. Vous pourrez gagner un lot de viande de race, alors peut-être de veau, je ne sais pas. C'est
certainement, il y a de fortes chances.
Il y aura certainement du veau dedans, donc chez Boucherie & Co, et vous pourrez gagner un déjeuner pour deux personnes aussi au restaurant Anona, chez notre deuxième invité, Thibaut Spivak. Donc écoutez bien l'émission pour pouvoir répondre à nos questions. Puis si vous avez des questions aussi, des conseils à poser à nos invités, 01 53 48 3000. Alors, au niveau, alors on va rester sur vous, Leïla, parce que on va parler de la conservation du veau. Mm-hmm. Le veau, ça se conserve dans quelle partie du réfrigérateur? Le bac à légumes, dans la partie la plus plutôt en haut, dans la partie la plus froide. Est-ce qu'on peut le congeler aussi? Moi, je suis pas fan de la congélation, mais c'est vrai que vous nous direz, Thibaut, il y a certains cas. On en parlait à la pause. Il y a certains cas dans lesquels ça peut être intéressant de congeler le veau. Alors pour la conservation, comment on fait une fois qu'on est parti de chez le boucher?
Alors si vous allez l'utiliser dans l'immédiat, effectivement, le laisser en haut du bac à légumes entre 4 et 5 degrés, c'est très bien. S'il est consommé a posteriori d'ici 3-4 jours, vaut mieux le congeler parce que le veau a tendance à se bleuter.
C'est comme les volailles aussi, un petit peu.
Exactement. Ouais. C'est pas parce qu'il est bleuté qu'il est moins bon ou qu'il est pas bon. Mais il donne un aspect visuel qui est pas très joli à voir. Mais il est toujours aussi bon. Hein. Mais effectivement, vaut mieux le consommer dans l'immédiat, sous les 3-4 jours.
Ouais, quand on a du veau de lait qui est tout blanc, c'est
exactement.
Vrai que c'est pas forcément bien, qui ressemble à un schtroumpf. Alors, donc ça c'était une première chose. Pourquoi est-ce qu'il faut garder la viande dans l'emballage du boucher? Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet emballage, au niveau de la conservation?
Eh ben, tout le jus de la bête reste justement sur l'emballage et ça conserve mieux.
D'accord, parce que souvent, on a tendance à vouloir enlever pour réemballer, etc. Mais c'est une bêtise, en fait.
Si vous enlevez, il y aura une petite prise d'air. Donc, ça fait qu'après, la viande va soit sécher, soit se bleuter.
D'accord.
Ou va changer de couleur complètement. Quoi.
Okay, donc, votre emballage, il est hermétique?
Il est hermétique, il est étanche.
Comestible, enfin.
Non,
est compatible avec
l'alimentaire.
Ne mangez pas le papier de la boucherie.
Il ne se désagrège pas, donc vaut mieux le laisser à l'intérieur.
D'accord. Parce que c'est vrai que souvent, les gens se disent, oui, si je le laisse dans cet emballage, il va mariner un peu dans son jus. Et c'est vrai, on en parlait aussi au niveau de la communauté. Il y a une espèce de phobie sur le sang. Alors que ce n'est pas du sang, c'est du jus.
C'est du jus.
Hein, il est légèrement coloré, mais c'est du jus, ce n'est pas du sang. Donc, n'hésitez pas à le garder avec la viande. C'est ce qui permet aussi de conserver le goût.
De conserver, effectivement.
De conserver le moelleux.
La tendreté. La fraîcheur.
Alors, et on parlait de congélation, Thibaut. Dans quel cas on peut c'est intéressant pour un cuisinier de congeler la viande au préalable?
Ouais, quand on congèle, déjà il y a quelques bactéries qui meurent. Par exemple, quand on prend l'exemple du thon japonais pour faire un sashimi, il est obligatoirement surgelé parce que justement on va tuer quelques bactéries. On le mange cru, c'est plus safe. Et je pense que si on fait pareil sur le veau, ça déjà ça permettra effectivement de pas gaspiller parce que ça reste un animal hein, donc on va éviter de gaspiller la viande, mais également on va tuer quelques bactéries. Quand on va vouloir se faire un tartare ou un carpaccio, ce sera pas mal. Si au restaurant, si je fais un tartare, je vais le tailler le jour même, donc il y aura pas de problème, il sera passé le soir même. Mais à la maison, voilà, ça permet de répartir
le tartare,
sur le temps.
Vous parlez de le tailler, pas de le hacher, parce qu'on rappelle qu'un tartare normalement ça se hache pas, mais ça se taille au couteau.
Oui, c'est pas normalement, c'est la seule et
unique
façon.
Pour avoir de la mâche, ouais, bien d'accord. Ouais. Hein, sinon, le veau, il est mort deux fois, il est mort pour rien.
Bah, c'est vrai que passer une viande au hachoir et la manger crue...
Pour les paupiètes, oui, mais pour...
Ouais, ça, non, pour un steak haché, c'est intéressant, à la limite, parce que c'est facile à manger. Pour un enfant, c'est cool. Mais quand on a un tartare, s'il n'y a pas de mâche, c'est ennuyeux à manger, oui.
D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire du steak haché de veau? Vous en faites, vous, Léa?
Oui, des petites milanaises de veau.
C'est très bon, ça, les petits steaks hachés,
oui,
de veau. Les enfants adorent.
Oui, oui.
Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire manger du veau aux enfants. Je sais
c'est
pas
un peu compliqué, effectivement. Mais quand il est haché, avec un peu d'épices et puis un peu de chapelure au-dessus, avec le petit jaune d'œuf pour faire tenir la chapelure, effectivement, ben, beaucoup de clients en achètent pour leurs enfants. C'est assez sympathique.
D'accord. Bon, alors, voilà une autre idée pour préparer le veau. Parce que c'est vrai que le veau, il y a on va en parler en dernière partie, mais il y a des milliers de façons de le cuire, de l'accommoder, que ce soit au niveau des garnitures, au niveau des sauces, au niveau des modes de cuisson. C'est vraiment quelque chose d'universel. Alors, au niveau de la cuisson, donc, on a parlé de sortir la viande un petit peu avant de la faire cuire. Quand on manipule la viande, est-ce qu'il y a des choses à savoir?
Bah, oui, évidemment. On va parler un peu des viandes snackées. Parce qu'on a beaucoup parlé des ragoûts, mais on va aussi faire des filets.
Une bonne escalope de veau ou même un morceau de tendron de veau sur le barbecue. C'est sympa aussi. Ouais.
Le barbecue, c'est assez. Voilà,
c'est assez éloigné.
On est à l'aise. Une petite pince américaine, on y va. Mais c'est vrai que dans une poêle, bon, déjà encore une fois, on sortir la viande avant, ça permet pas avoir de choc thermique dans la poêle, mais ça permet aussi que le cœur de la viande soit à température ambiante. Parce que sinon, on va avoir quelque chose qui va être grillé autour, mais froid à cœur. C'est là qu'on va avoir des viandes trop cuites parce qu'on va vouloir que ce soit chaud dedans. Et le temps que ça monte en température, ce sera du béton. Donc on va démarrer. Donc viande température ambiante, assaisonnée, mot de préférence à l'avance pour que le sel pénètre. Poêle chaude, huile, un peu de beurre éventuellement, ail, thym comme on aime. Enfin, vraiment, c'est libre à chacun. Et on va snacker la viande. Pour la retourner, une cuillère ou une pince, on ne pique pas la viande. Ça va l'abîmer, le gras va pénétrer à l'intérieur en trop forte quantité, ça va cuire trop fort à l'intérieur par
exemple. Et puis on va perdre le jus et le goût.
On prend une pince ou les mains bien propres, on fait ça éventuellement à la main si on aime bien avoir un peu chaud au doigt. Mais idéalement, les petites pinces américaines là, qu'on trouve un peu dans les supermarchés, ça fait très très bien.
Ouais, même en silicone, il y en a qui résistent.
Ouais, voilà,
chaleur,
tout à fait, c'est ça. Ouais.
Alors, donc, la technique, c'est on fait d'abord colorer pour avoir une espèce de croûte qui va garder le jus à l'intérieur.
Et qui après, va surtout, énormément de goût.
Voilà. Et surtout, on ne pique pas après pour pas que le jus reparte, quoi, tout simplement.
C'est ça. Comme ça, on aura une belle croûte, gourmande, jolie, parce que c'est très appétissant quand même, ce côté brun. Attention, pas noir. Hein. Il faut stopper avant que ce soit trop tard. Mais c'est ça qui donne la gourmandise sur une belle viande sautée.
Ok. Et alors, est-ce qu'on fait reposer les rôtis, par exemple? On dit toujours qu'il faut les faire reposer, mais les viandes qu'on a snackées comme ça, est-ce qu'on les fait reposer? Est-ce que ça a un intérêt?
Toujours. L'intérêt de reposer une viande après cuisson, ça va être qu'elle va se relâcher. Il y a un petit peu d'eau, comme vous disiez, pas de sang, mais bien d'eau avec un peu d'hémoglobine qui va se relâcher. Donc la viande va reprendre de la tendreté, parce que c'est vrai que quand on snack une viande, ça la graisse quand même un peu. Donc elle se contracte, ça reste un muscle. Et le fait de la laisser reposer, ça va se redétendre, ça va être beaucoup plus doux en bouche.
Voilà, le jus va se répartir dans les fibres et lui redonner de la tendreté. Donc on couvre?
Non, sur une plaque avec une grille ou un truc comme ça. Idéalement, on peut le faire même vraiment en avance si on a plusieurs invités et qu'on veut rester à table avec eux. On snack la viande à l'avance, on la laisse reposer même pendant une heure tranquillement et on la réchauffe.
Au dernier moment, on remet
exactement,
juste un petit coup de chaud.
Un petit
et ça
coup de chaud au four ou dans une poêle avec du beurre à nouveau. Là, on va avoir quelque chose qui va être chaud.
Alors, quand on réchauffe au four, on ne met pas le four à 200 degrés, on le met plutôt à 80. On parle de réchauffer, là, on ne parle pas de recuire.
C'est ça. C'est vraiment juste une réchauffe, un petit remontée en température. On peut le laisser au four à 50 degrés.
Oui, c'est quand on est en dessous de 60 degrés, ça garde au chaud sans continuer.
On restera sur quelque chose de rosé qui va être gourmand. Faut pas le réchauffer pendant 4h30 à nouveau parce qu'on est sur une viande snackée. Mais ça permet vraiment de rester à table. On a snacké la viande à l'avance, elle s'est reposée, elle est moelleuse. On la réchauffe un petit peu, on la mange sans rester en cuisine trop longtemps.
Ouais, c'est le principe des cuissons basse température où la viande reste tendre, mais elle cuit quand même, quoi. C'est ça. Ouais.
Enfin, là, on est dans le sens inversé, mais
oui, ça, oui, oui. Là, on l'a bien cuite avant, oui, quand même. Ok, ça marche. Bon, on va refaire une petite pause. Restez avec nous. On va vous poser en fin d'émission des questions pour vous permettre de gagner un repas pour deux, un déjeuner pour deux chez Anona, le restaurant de Thibaut Spillac, et gagner également un lot de viande de race chez Boucherie & Co. Leïla, qui est avec nous. On se retrouve dans un petit instant.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beur FM.
De retour dans Dessus de table, on parle du veau aujourd'hui avec nos invités Thibaut Spivak, chef et propriétaire du restaurant Anona à Paris 17e. Et puis Leïla, la bouchère en jupon, j'ai envie de dire. non, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des bouchères. C'est rare. En général, elles sont à la caisse. Hein, on le disait l'autre fois dans une autre émission. C'est vrai que souvent, la bouchère, c'est la femme du boucher.
Exactement.
Alors que vous êtes une vraie bouchère.
Tout à fait.
Hein, c'est vous qui découpez les carcasses.
Qui reçoit les viandes.
Avec votre désosseur.
C'est ça.
Voilà. Donc une vraie bouchère et puis également restauratrice juste à côté de votre boucherie. Donc Boucherie & Co. et la broche grillée à Brétigny-sur-Orge. Alors d'ailleurs, on peut venir vous voir, même si on n'est pas de Brétigny-sur-Orge, parce que vous êtes juste à côté du RERC, là, il y a la station Brétigny.
Proche de la N104, proche de la Nationale 20, proche du RERC, c'est très facile de venir nous voir.
D'accord, donc d'ailleurs, on va donner l'adresse, tant qu'on y est, 30 place Federico Garcia Lorca, à Brétigny-sur-Orge, donc Boucherie & Co. pour la boucherie et la broche grillée pour le restaurant. Et puis Anona, vous, c'est 80 boulevard des Batignolles, Paris 17e. Thibaut Spivak, le restaurant Anona, www.anona.fr. Et vous faites une cuisine, on peut dire, créative.
J'espère, en tout cas. on va dire, ce que j'essaye de faire vraiment chez Anona, c'est d'avoir la plus grosse démarche responsable et durable, d'abîmer le moins possible la planète. Et pour ça, j'ai pas mal de choses qui sont en place dans le restaurant, comme dans le bar ou dans la cuisine. Et il y en a pour tout le monde. On a de la viande, du poisson et du vegan. Tout le monde est le bienvenu avec plein d'options.
D'accord. Alors, oui, quand vous parlez de restaurants gastronomiques éco-responsables, c'est parce que déjà, vous utilisez des circuits courts, donc moins de coûts carbone, etc. Vous faites des produits locaux, donc là aussi, moins de coûts carbone. Vous réduisez, vous recyclez vos déchets vous-même. Quoi d'autre ? Vous limitez votre consommation d'eau, vous utilisez de l'électricité verte. Vous êtes un extrémiste, hein. Il y en a d'autres encore, hein. Vous utilisez des produits d'entretien biologiques et biodégradables.
Tout à fait.
Et le bois, même le bois qui a été utilisé pour la fabrication de votre mobilier provient d'Île-de-France.
Tout à fait, tous les gens qui ont travaillé sur le chantier sont franciliens. On fait absolument tout nous-mêmes. On fait notre propre pain, on fait notre tonic, si vous voulez, un gin tonic au bar. L'idée, c'est de, un, s'amuser à produire sainement et de limiter vraiment tout ce qu'on peut faire. Un restaurant fait 60, 100, parfois 1000 couverts pour des grands restaurants. C'est hyper important que nous, que si quelqu'un montre l'exemple, c'est nous, quoi, au niveau alimentaire. C'est très important.
D'accord. Alors ça, c'est effectivement une belle démarche, en plus d'avoir une démarche de qualité, une démarche gastronomique. Et alors justement, elle est là, puisqu'on parle de coûts carbone et de locavorisme, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux consommer du veau français que du veau européen ?
Bah, le veau, j'ai envie de vous dire tout simplement qu'il est meilleur. Le veau européen, il a tendance à tendre vers les 8 mois. Le veau français a tendance à tendre vers les 5 mois. 4-5 mois.
Donc il y a 3 mois d'écart pour un veau, c'est beaucoup. Quoi.
C'est beaucoup.
Dans sa durée de vie,
exactement.
Total, ouais, c'est pas mal.
C'est pas mal, 3 mois. Hein. Donc effectivement, le veau français, moi je trouve qu'il est meilleur, il est plus goûtu et beaucoup plus savoureux. Et moins insipide en bouche.
Et puis à 8 mois, il a souvent commencé à brouter, donc ça fait effectivement des
on il commence bien à brouter, effectivement, donc sa couleur de chair va commencer à changer, va commencer à rougir un petit peu. Et c'est vrai que moi, personnellement, je préfère le veau français, effectivement.
D'accord. Bon, ben nous aussi d'ailleurs, ça tombe plutôt bien. Et puis, de toute façon, quand on peut acheter français, je veux dire, il faut effectivement le faire. Hein. C'est vrai que la mondialisation, même au niveau européen, c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de mieux, surtout en matière d'alimentation. Alors, il y a un chiffre moi qui m'a fait frémir, c'est que les veaux labellisés, c'est-à-dire label rouge, IGP, bio, ça ne représente que 5% de la production française. Ce qui veut dire que 95% de la production française, en fait, c'est du veau industriel, du veau de batterie.
Tout à fait.
Comment on fait, vous, qui avez un sourcing vertueux, et vous, Thibault, qui achetez aussi des produits labellisés, est-ce que c'est pas parfois difficile de se fournir ? Est-ce que parfois on fait pas tout simplement un produit parce qu'on en a pas trouvé ?
Moi, j'ai la chance de travailler chez Anona avec des bouchers ou des producteurs directement, donc on a un meilleur suivi. Je demande vraiment à mes fournisseurs de viande d'avoir une belle traçabilité sur la viande, donc c'est plus facile pour moi, c'est sûr, que pour la ménagère qui va aller à la boucherie. Donc là, il va falloir se renseigner, avoir confiance au boucher, donc c'est vraiment choisir son boucher pour sa qualité et être sûr de faire confiance, donc c'est jamais évident. Encore une fois, supermarché...
Ouais, bon, on ne sait pas ce qu'on achète. Et par contre, pour vous, Laïla, qui faites de la viande labellisée ou de race et de surcroît halal, pour vous, c'est peut-être pas parfois un parcours du combattant pour trouver des viandes de qualité.
C'est un parcours du combattant, c'est très très compliqué. La plupart des veaux, comme vous le disiez tout à l'heure, sont en batterie. Donc des veaux labellisés, 5%, mais en halal, c'est encore moins. Donc c'est très compliqué, il faut voir avec les agriculteurs, mais souvent on les prend dans le Limousin, donc... Il y en a de très bons là-bas et on arrive toujours à se débrouiller et à en avoir. Mais c'est vrai que des fois, au lieu d'avoir une bête entière, on va avoir une demi-bête parce qu'on a dû se la partager avec un confrère, par exemple.
D'accord,
c'est
oui.
C'est très compliqué.
Ah, vous êtes obligé de vous faire des bêtes à plusieurs.
C'est ça.
Alors, il nous reste pas très longtemps. Alors, on avait parlé de faire gagner des auditeurs. Du coup, je vais poser les deux questions à la suite. Déjà, pour gagner un lot de viande chez Boucherie & Co, offert par Laïla, donc on va poser une première question. Quel est le morceau de veau qu'on utilise pour faire l'osso buco ? Ça, on vous l'a dit tout à l'heure. Si vous avez la réponse, 01 53 48 3000, je répète, 01 53 48 3000. Et si vous voulez gagner un déjeuner pour deux chez Thibaut Spivak, quel est l'âge maximum pour pouvoir s'appeler un veau en France ? Quel est l'âge maximum de la bête ? Ça, on l'a dit aussi il n'y a pas très longtemps, hein, il y a quelques minutes à peine. 01 53 48 3000. Je répète les deux questions. Pour gagner un lot de viande chez Boucherie & Co, donc viande labellisée et halal, vous nous dites quel est le morceau utilisé pour faire l'osso buco. Et puis, pour gagner un déjeuner pour deux chez Thibaut Spivak, restaurant Anona, vous nous dites quel est l'âge maxi pour pouvoir s'appeler un veau en France, contrairement à l'Europe. Allez, on va prendre tout de suite un premier appel. Vous êtes déchaîné au standard. On va prendre Mounia. Bonjour Mounia. Allô, bonjour Mounia.
Oui, bonjour.
Alors, il y a un écho, vous avez le kit main libre, vous avez l'ampli, vous avez quelque chose ?
Oui, on est en voiture.
Ah d'accord. Bon, essayez de couper l'ampli ou de couper la radio, peut-être, si vous avez la radio, le retour radio. Vous allez nous entendre dans l'écouteur, vous inquiétez pas, de votre téléphone.
Ok.
Alors, donc, vous voulez répondre à quelle question, Mounia ?
Les deux.
Les deux, non. Alors, on va choisissez-en une.
Alors, c'était quoi ?
Alors, le morceau pour faire les osso buco. Là, ça vous permet de gagner un lot de viande chez Boucherie & Co, donc chez Laïla, notre amie Laïla.
Et l'autre, c'est le dîner, c'est ça ?
L'autre, c'est un déjeuner pour deux, à Paris 17e. C'est à Paris 17e, boulevard des Batignolles.
On va prendre ça ?
Vous préférez le déjeuner ? Bon, alors,
oui.
Vous nous dites quel est l'âge maximum pour un veau élevé en France, jusqu'à quel
cinq
âge
mois.
Pardon ?
5 mois.
5 mois, ouais. Vous pouviez dire 5 ou 6 mois, les deux étaient bons.
Ouais, 5 ou 6 mois, mais donc, en général, c'est 5 mois.
Donc, okay. Vous avez une voix bizarre, Mounia ?
Non, c'est les deux, c'est son mari.
Je sais.
C'est son mari qui est boucher, qui achète de l'IGP dans le Limousin.
Ah, très bien, magnifique. Et vous faites du halal aussi ?
En partie,
ouais, d'accord. Ouais. C'est comme on disait, c'est avec Laïla, c'est difficile quand on fait voilà. De halal d'avoir toujours le type de.
Comme disait la dame, je sais plus comment elle s'appelle. On se partage un petit peu les bêtes.
Ouais, c'est ça.
Dès qu'on arrive à en avoir, on le prend.
Système D, quoi.
Voilà.
Ok, ça marche. Donc on a noté vos coordonnées. On prend rapidement un autre appel parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Donc on va prendre Habiba. Bonjour Habiba.
Oui, bonjour.
Bonjour, alors je ne vous demande pas à quelle question vous pouvez répondre. Vous voulez répondre parce qu'il n'en reste qu'une.
Oui.
C'est pour gagner un lot de viande chez Boucherie & Co. Quel est le morceau qu'on utilise pour faire l'osso buco ?
Le jarret.
Mais oui, c'est une très bonne réponse Habiba.
Voilà.
Alors, Habiba, on va noter le numéro qui s'affiche. C'est bien votre numéro.
Oui.
Vous nous avez appelé
par
une cabine.
Tout à fait, oui.
D'accord. Alors, on va noter votre numéro et puis on vous recontactera après l'émission pour que vous puissiez récupérer votre colis de viande chez Boucherie & Co, chez Leïla.
D'accord. Merci beaucoup. À vous tous.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Voilà, donc... C'est une fin d'émission un petit peu rapide. On va rappeler très rapidement, et on avait encore pas mal de choses à dire. Je voulais qu'on parle des abats, tout ça. C'est pas grave, vous allez revenir, on refera une émission, tant pis. Hein. On fera un veau numéro 2. Je rappelle simplement, donc Boucherie & Co et la broche grillée, la boucherie et le restaurant, 30 places Federico Garcia Lorca à Brétigny-sur-Orge. Et puis le restaurant Anona du chef Thibaut Spivak, 80 boulevard des Batignolles à Paris 17e. Si vous voulez découvrir un peu tout son univers, on n'a plus le temps d'en parler hélas, vous faites www.anona.fr. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets très culinaires.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.